première chose que l'on construira sera la chambre royale. Et la reine commencera à pondre. Et bientôt, dans ce trou, il y aura d'autres cellules, des kilomètres de galeries et des centaines de milliers de nouveaux termites à qui l'on apprendra à être manœuvre, maçon, domestique, infirmier ou soldat.
Et c'est donc un voyage au cœur des termitières avec vous, Axel, à la Une de la Science aujourd'hui.
Oui, Mathieu, et on l'a vu dans le son, une termitière, ça commence presque toujours comme un conte pour enfants. Un roi et une reine se rencontrent, ils s'enfouissent dans le sol, façonnent une jolie chambre avec un mélange de terre, de salive et parfois de fesses. Et ensuite, vous connaissez la fin, Mathieu.
Oui, ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Hein,
mais vraiment, vraiment beaucoup.
Oui, c'est ça. Oui.
Plusieurs millions. C'est comme ça que les termitières naissent, tout comme le travail des scientifiques qui cherchent à comprendre l'organisation interne de ces structures. L'étude au rayon X de plusieurs nids venus d'Afrique vient d'être publié dans la revue Science Advances et nous sommes au téléphone pour en parler, non en duplex avec les locaux de Toulouse, avec vous Christian Josse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur donc à Toulouse, à l'université Paul Sabatier et au Centre de Recherche pour la Cognition Animale. Alors qu'est-ce que vous cherchiez à voir de plus en plaçant ces nids de termites africains, sans les termites bien sûr, dans différents appareils à rayon X?
Nous, on part de l'intérêt général pour... Oui, notre équipe, c'est une très équipe, bien sûr. On s'intéresse à l'architecture des termites en général, et en particulier comment les termites coordonnent leur travail à faire ces architectures, sans qu'il y ait un chef, sans qu'il y ait un architecte qui les dirige.
Oui, parce
qu'on appelle ça l'auto-organisation.
Les termitières sont très étudiées, hein. On s'en inspire même pour l'architecture, donc on commence à les connaître.
Pas tant que ça. Si on regarde la littérature sur les termites, la moitié est consacrée à comment les tuer.
Ah oui.
Parce qu'il y a une vingtaine d'espèces qui sont inuisibles.
Et vous, mais c'est plutôt comment s'en inspirer alors?
Oui, c'est que 20 espèces sur quelques milliers d'espèces, donc c'est, pour moi c'est un peu négligeable que c'est nuisible, même si ça peut être embêtant. Moi je m'intéresse plus à ce que font les autres, justement leur architecture.
Alors, vu de la terre ferme, à quoi est-ce qu'elles ressemblent les nids que vous avez rapportés d'Afrique?
Alors, celle des Trinaeratermes, c'est une sorte d'éponge. Quand on est là-dedans, c'est très homogène, on se balade sur des surfaces, on passe d'une sorte de chambre à une autre, mais on ne sait plus très bien où on est. On a des casques virtuels pour se balader là-dedans, et là, des fois, la tête en bas, la tête en haut, c'est pas très clair où y aller, comment s'y orienter là-dedans et tout ça.
Alors oui, la grosse découverte là quand même de vos travaux, elle se joue à une échelle toute petite, celle du nanomètre. Vous avez mis en évidence qu'il existait un deuxième système de canalisation, en quelque sorte un réseau secondaire. Est-ce qu'on peut dire comme ça des canalisations?
On peut dire canalisation, c'est un réseau pour acheminer des choses. Dans notre cas, c'est l'acheminer l'eau de pluie par exemple et l'air usé ou nouveau.
Mais ils font quelle taille ces tuyaux?
Ben justement, c'est à l'échelle du micromètre, ça veut dire quelques dizaines, voire centaines de micromètres, ben plutôt moins. Et c'était ça la surprise de ce travail. Nous, on connaissait déjà ces architectures avec les tomographies à rayon X qu'on a pris au CHU de Rongoy, donc à l'hôpital. On a apporté les nids le samedi matin et on a fait les scans. Et donc, on connaît l'architecture à l'échelle millimétrique. Maintenant, nos collègues à Londres, ils ont pris les échantillons et ils sont passés dans des microtomographes. Et à cette échelle micrométrique, tout d'un coup, on a trouvé un nouveau réseau de communication.
Mais le micromètre, c'est plus petit que l'animal en lui-même, c'est ça, hein?
Bien sûr. Un termite, c'est de l'ordre de 4 à 5 millimètres.
Donc comment est-ce qu'elles font pour construire un réseau qui est plus petit qu'elles-mêmes?
Ça, c'est la question ouverte. On n'a pas encore répondu à ça dans la publication. On a seulement constaté qu'il existe. Maintenant, ça peut être le comportement de l'animal lui-même. Ça peut être les forces physiques au moment où ils déposent leurs boulettes, la compacte. Donc ça peut être physique ou comportemental. On ne sait pas encore. C'est spéculatif pour le moment.
Mais quand on est un termite et qu'on cherche à construire une termitière, quelles sont les choses qu'on doit prendre en compte? Quelles sont les contraintes?
Déjà, pour nous, le termite, c'est une sorte de... a un répertoire comportemental, des choses suite à un certain stimulus, les termites font quelque chose avec une certaine probabilité. Bon, là, c'est un peu abstrait, mais l'idée, c'est dans la construction, ils prennent les boulettes quelque part, ils se déplacent, ils déposent partout. De préférence, là où il y a déjà d'autres boulettes récemment déposées. Donc ça module leur probabilité de déposer des boulettes, ça mène à une rétroaction positive qui fait émerger les premiers piliers. Donc c'est dans cet ordre de grandeur qu'on réfléchit sur le comportement de base, sans qu'il y ait des réflexions compliquées.
Oui, c'est ça, c'est pas un choix, hein, c'est ça que vous dites, c'est guidé par des réflexes.
Je n'utilise pas le mot réflexe, parce que le réflexe, c'est quelque chose de déterministe. Mm-hmm. On tape sur le genou, en extend la, on fait projeter sa jambe. C'est plus compliqué que ça, c'est plutôt justement probabiliste. Quand on a une certaine perception locale de l'environnement, il y a une certaine probabilité de faire telle et telle chose. Mm-hmm. Et ça, pour différents stimuli, ça fait émerger des complexités assez intéressantes.
Alors justement, on l'a dit au tout début des émissions et de chronique, comment est-ce qu'on s'en inspire aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que les termitières sont capables de réguler leur température, l'évacuation des eaux, la circulation des gaz. Comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer de ces termitières et de ces constructions?
Ben, pour le moment, en application, les inspirations principales viennent d'une autre espèce de termites, les macrothermites, qui eux-mêmes sont des agriculteurs, ils ont des chambres de culture de champignons à l'intérieur de la termitière, et donc ils ont un problème de renouvellement d'air, parce qu'il y a beaucoup de métabolisme, beaucoup de CO2 produit, d'oxygène consommé, et ces termites-là, ils ont vraiment un système de ventilation assez sophistiqué, avec des tunnels, des tunnels complexes qui passent à la périphérie, à l'intérieur, qui utilisent la radiation solaire pour faire circuler cet air et renouveler tout. Là, on est face à deux termites plus simples, les Trinerithermes. Ils n'ont pas des champignons, c'est pas des agriculteurs, donc ils ont un métabolisme moins gourmand. Mmh. Et pourtant, ils ont aussi besoin de faire ces échanges gazeux. Et là, on a justement trouvé que, tout simplement par l'interaction entre les forces de vent extérieures et ce réseau de port à l'échelle millimétrique et micrométrique, l'échange gazeux est assez efficace.
D'accord. Donc,
merci beaucoup, Christian Jost. On va terminer là-dessus avec ces informations donc, sur la science du termite. On peut dire ça comme ça, vous qui êtes chercheur justement au Centre pour la cognition animale à l'Université de Toulouse. Merci beaucoup à vous. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la première sortie 100% féminine dans l'espace n'aura pas lieu. La nouvelle qui a déçu un bon nombre d'internautes a été annoncée hier par la NASA. Christina Koch et Anna McCain devaient entreprendre une opération de maintenance de l'ISS en duo vendredi. Mais il n'y aurait pas assez de combinaisons prêtes et à la bonne taille pour garantir la sécurité des deux compatriotes. Un manque d'anticipation qui tombe mal. L'opération est maintenue, mais se fera donc avec l'Américain Nick Hagg. Le cerveau est-il capable de produire de nouveaux neurones tout au long de la vie? Eh bien, c'est l'une des controverses les plus vives en neurosciences actuellement. Une nouvelle pierre vient s'ajouter du côté positif de la balance. Avec un travail publié dans la revue Nature aujourd'hui, des chercheurs canadiens ont trouvé des traces de neurones immatures dans des échantillons de personnes âgées décédées. Et donc cette information est importante puisqu'elles avaient entre 43 et 87 ans, un protocole innovant et des résultats très débattus depuis d'ailleurs leur publication. Et puis pour terminer, au Costa Rica vit un lézard champion de plongée sous-marine. Anolis aquaticus, c'est son nom, est relativement peu rapide sur la terre ferme, mais il s'avère très agile sous l'eau. Une étude parue cette semaine montre que pour échapper aux prédateurs terrestres, il est capable de plonger pour se cacher sous l'eau, d'y rester pendant plus d'une quinzaine de minutes, capable également, selon les chercheurs, de respirer en recyclant les bulles d'air qui s'accroche sur son corps. Cette méthode tout à fait nouvelle va faire l'objet de nouvelles études.